Voici le compte-rendu d'une excursion au Mont-Valier, datée de 1885 et réalisée par M. Caudurban, qui en dédie l'écriture à ses compagnons d'excursion sous cette forme. Vous étiez là comme moi, mais mieux que moi, vous avez su voir, étudier et sentir. J'aurais dû écrire sous votre inspiration. Avec l'indulgence de l'amitié, ne me lisez que pour vous souvenir. Excursion au Mont-Valier par la vallée de Bethmale. Cette excursion, qui est une des attractions du Haut-Couserans, peut être faite par trois chemins différents. Par la vallée d'Estourses, par le Ribérode de Borde et par la vallée de Bethmale. C'est ce dernier itinéraire, le plus long mais le plus varié, que nous avons suivi dans les premiers jours du mois d'août 1885. J'ai recueilli sur cette excursion de 3 jours quelques notes, observations et impressions que je transcris pour les amis et les touristes qui nous ont accompagnés de leurs vœux. Lundi 3 août. Nous voilà partis. La caravane était composée de 2 guides, d'un âne, j'énumère par rang d'ordre, le rang est un hasard et non pas un mérite, d'un géologue, d'un archéologue, d'un photographe, d'un botaniste et moi, qui n'ayant pas de qualité, m'arroge celle d'historiographe de l'excursion. En avant pour le Mont-Valier. Nous partions le cœur plein d'ardeur et l'imagination impatiente chevauchait à travers les pics et les vallées avec une légèreté qu'elle perdra au fur et à mesure que la fatigue appesantira nos sens. Le ciel était sombre, l'atmosphère lourde, les horizons festonnés de gros nuages, mais tout était prévu. On était armé contre le froid, la pluie, et le soleil. À côté des précautions prises contre les éléments, il y avait les provisions qui devaient combattre la faim et la soif. Il y avait les instruments scientifiques, boussole, thermomètre, appareils photographiques. Il y avait l'indispensable boîte de pharmacie. Je vous dis que Crevaux et Flatters n'auraient pas mieux organisé leur expédition. Et cependant, nous n'allions ni dans le bassin de l'Amazone, ni au désert des Touaregs. Nous partions pour le Mont-Valier, 2839 mètres d'altitude à vol d'oiseau, 4 lieues de distance. J'en parle maintenant à mon aise que je suis reposé, délassé, frais, et que j'écris sous l'impression des bons souvenirs que j'ai conservés. Les autres étant relégués dans l'oubli, dans ce vieux stock de tant de choses qu'il faut perdre de vue. À quelques pas, en amont du presbytère de Bordes-sur-Lèze, vous rencontrez la route qui est destinée, dans les plans de l'administration, à relier par le col de la Corre les vallées de Seix et du Castillonnet. C'est là qu'il faut vous arrêter un instant pour embrasser d'un coup d'œil le plan général de la vallée de Bethmale. Car nous sommes, dès nos premiers pas, dans ce charmant pays des costumes, des mœurs, des traditions et des chants primitifs qui attirent si vivement la curiosité des touristes et défient la sagacité et l'érudition des antiquaires. Sur la carte, cette pittoresque vallée vous offre l'aspect d'un grand parallélogramme formé par des cimes montueuses et traversé sur son grand axe par un ruisseau tributaire du Lèze. Pour le touriste qui veut lui-même recueillir l'impression des lieux de visu, c'est un vaste berceau de verdure ouvert au vent de l'ouest, protégé à l'orient par les ressauts de la Corre, et se relevant au midi et au nord en pentes cultivées ou boisées. Sur le fond, comme 2 sentinelles qui gardent le col, se dresse le pic de Bouyrex, au verdoyant pâturage et l'imposant rocher de Balham, semblable à une ruine embrasée quand le soleil le frappe des derniers feux du jour. À mesure que vous avancez, la scène s'anime de petits villages échelonnés sur la route et d'une infinité de chalets rustiques disséminés sur le flanc des collines. Des enfants dispos aux pommettes rubicondes, plus bruyants ici qu'en aucun autre lieu, chantent et crient sur les chemins. Les troupeaux bêlent dans les prairies. Le berger perché sur son roc hèle le passant et la brebis qui s'écarte. Et le balamé, jetant sa note harmonieuse dans ce concert, court à flots sonores sur son lit de granit entre deux rideaux de sol. Le signal du départ n'avait été donné qu'à 5 heures du soir. C'était assez tôt pour arriver, sur la tombée du jour, à la maison forestière du lac de Bethmal que nous avions fixée pour notre première étape. Mais nous avions compté sans l'imprévu qui vient à tout instant dans les excursions déjouer les plans les plus caressés. Le ciel était taché de gros nuages, l'air était lourd, des rafales de vent suffocantes soulevaient la poussière en tourbillon. À peine parti, le grondement du tonnerre nous avertit que nous aurions bientôt un asile à chercher contre l'orage qui disparut pour cette fois en une de ces ondées épaisses qui présagent une averse plus abondante. À Arien, premier village de la vallée, nous reçûmes le plus cordial accueil du sympathique curé qui voulut bien se joindre à nous avec un autre guide. Leur expérience des montagnes et leur obligeant dévouement nous furent d'un précieux secours durant toute l'excursion. Entraîné par le vent d'Espagne, l'orage, après avoir rafraîchi l'atmosphère, alla se déverser sur la vallée du Salat, et nous pûmes bientôt reprendre notre marche. Nous traversâmes, gais compagnons, heureux de notre recrue, le village d'Aret, où nous remarquâmes l'ancienne maison de chasse des barons de Bethmal, et, sur un mamelon du versant opposé, les ruines du vieux donjon de Bramevac, environné d'une triple enceinte de remparts. Et nous voilà à Samourtin et à Ayet, dernier village de la vallée. La nuit venait à tire-d'aile et le ciel se rembrunissait des noires vapeurs de la tempête qui se reformait. Ceux qui n'ont pas voyagé dans nos vallons pyrénéens ne savent point avec quelle rapidité un orage se forme et se déchaîne soudain, trompant toutes les prévisions. Quel dommage pour nos photographes que nous soyons à une heure aussi avancée et sous un firmament privé de lumière. Il y avait là, dans une rue étroite, montante, bordée de maisons à grands balcons, un motif de tableau ravissant. Au-dessous d'un vieil oratoire qui garde une madone de bois grossièrement sculptée, près d'une fontaine à jets abondants, était disposé, en amphithéâtre, par un heureux accident du sol, un groupe d'habitants que la rumeur de notre passage avait attiré. Il y avait là, dans un pêle-mêle des plus artistiques, la jeune fille avec son tablier multicolore, sa bavette et sa coiffe rouge, portant la cruche, la vieille mère aux manches retroussées, filant sa quenouille, le pâtre, appuyé sur son grand bâton, fier de sa veste rehaussée d'arabesques. Et, courant dans le cercle des parents, les petits mioches aux joues rebondies qui s'encadrent si bien sous le petit béret orné de brillantes cocardes, de boutons et de paillettes de cuivre. Une vraie féerie de costumes et de types variés, dans un cadre champêtre de toits de chaume, de vieux murs tapissés de lierre, et, dans l'arrière-plan, les hautes cimes des Pyrénées descendant en tapis émaillés de verdure. Ni les sites les plus enchanteurs de la Suisse, ni les baies illuminées de l'Italie méridionale n'ont jamais révélé au peintre un idéal semblable à celui que nous venions d'entrevoir et auquel nous étions obligés de nous ravir, mais avec l'espoir de le retrouver un jour et de l'utiliser pour le plaisir de ceux qui n'en seront jamais les témoins. Nous reprîmes donc notre route, tout éblouis de ce délicieux spectacle. Nous franchîmes le petit torrent qui s'enfuit dans le ravin de Peyre, et à grands pas, nous nous hâtons vers la passerelle d'Aguillou. Mais l'orage court après nous, chargé d'éclairs. Sur notre chemin, nous croisons des troupes de moissonneurs affolés qui se précipitent en désordre vers le village. C'est un sauve-qui-peut général par les prés, les champs et les sentiers. De grosses gouttes tombent à tonnes et froides sur les pierres, sur les feuilles des arbres, puis toutes les cataractes s'ouvrent sans merci. C'est un déluge. Chacun cherche un abri. Nous nous réfugions sous un cerisier qui, de ses rameaux feuillus, nous protège un instant. Mais bientôt la voûte se perce et la pluie tombe à torrents sur nos têtes. À la lueur d'un éclair, nous apercevons à quelques pas une grange. Nous nous y précipitons. À travers les fissures de la porte brillent quelques rayons de lumière. Pour l'amour de Dieu, ouvrez-nous! Et la porte cède à nos efforts. Et nous tombons au milieu d'un pauvre ménage de bêtes mâles, accroupi autour d'un gros tronc qui flambe. Qui ne s'est pas trouvé ainsi égaré, en pays inconnu, battu par l'orage, sans une pierre pour abriter sa tête, ne connaît pas le prix de l'hospitalité. Soyez bénis, braves paysans, qui nous avez fait place dans votre âtre et qui nous avez si généreusement offert le lait écumant de vos écuelles. Nous étions trop nombreux pour fermer le cercle devant le petit foyer. Nous défilions l'un après l'autre devant la flamme des tisons rapprochés par le maître de séant pour nous réchauffer et sécher nos habits. Pendant une longue heure que nous avons passée dans ce chétif réduit, nous en avons pu examiner la disposition qui est commune à toutes les granges de cette vallée. La moitié du local est occupée par les vaches et l'âne qui mangent l'un et l'autre à côté de leur maître. Un dur grabat, porté sur quatre ais de hêtre, sert de lit de repos à la femme et aux filles. Quant aux gars, ils se blottissent après les fatigues du jour dans une niche qu'ils ouvrent dans le foin, et là, ils dorment de ce sommeil paisible et réparateur que ne donnent point nos alcôves luxueuses. Autour du foyer installé, s'enchaînaient, sur une large pierre, deux petits bancs grossièrement taillés, une grande jarre et quelques cuillères de bois. C'est tout l'outillage de ces installations primitives qui sont une légitime et sanglante critique des inutiles et encombrantes futilités de notre civilisation raffinée. Ô Fortunatos Nimium! Je me crus un instant dans une de ces huttes préhistoriques, comme devaient en habiter nos ancêtres de l'époque néolithique, et, toujours obsédé de la manie des antiquailles, je demandai à notre bienveillante hôte, un solide paysan à peine ébauché dans sa robuste carrure, s'il n'avait jamais trouvé, dans ses champs ou ses pâturages, quelque coin en pierre, une de ces haches en silex que l'on dit tombée du ciel. Ah, je vous comprends, me dit-il avec un sourire ironique. Vous voulez parler de ces couteaux que les prêtres donnent en gage au diable quand il suscite un orage, afin qu'il aille porter plus loin sa foudre, sa grêle et ses torrents d'eau. Non, je n'en ai jamais trouvé. Mais mon père se souvient d'avoir vu un de ces instruments que notre curé avait donné au diable un jour d'orage, et le malin esprit l'avait jeté au pied d'un arbre. Je n'eus pas d'objet archéologique de mon brave interlocuteur, mais un témoignage de l'universalité de cette opinion qui, depuis l'Antiquité la plus reculée, attribue à une origine mystérieuse ces haches primitives, vulgairement nommées pierres de tonnerre. Nous n'étions dans la cabane du bête malais qu'un pied en terre, impatients de reprendre le chemin de la maison forestière. Au dehors, les grondements du tonnerre s'atténuent, l'éclair apparaît plus rare, moins fulgurant. Mais la nuit est devenue noire, opaque, nous dérobant la vue des montagnes, des arbres, des buissons qui bordent la route. Partout, ces ténèbres épaisses et silencieuses qui suivent le tumulte d'un violent orage. Il faut pourtant remercier notre hôte et lui serrer cordialement la main. Nous tâtonnons dans la plus sombre obscurité et nous nous égarons. Longtemps, nous pataugeons dans les flaques d'eau, à travers les longues herbes des prés, trébuchant sur une pierre, glissant dans les bourbiers, sans guide, sans flambeau. Nos guides, prenant de l'avance sur nous, tandis que nous nous extasions dans les carrefours d'ailettes, étaient loin, loin et haut, dans les sentiers de la forêt qui environne le lac. Chargés de la conduite de l'âne et du transport de nos provisions et de nos instruments, ils avaient assez de soucis d'arriver sains et saufs. Mais il y a la providence pour les excursionnistes imprudents et malavisés, grands enfants qui n'hésitent pas à mettre leur vie en péril pour la conquête d'un pic que n'a jamais foulé le pied de l'homme, pour l'émotion d'un panorama aux horizons lointains, pour la traversée d'un glacier. Un pêcheur que nous avions chargé de nous procurer quelques poissons pour notre repas du soir, entendant nos cris de détresse, répond par un appel qui nous remet dans la bonne voie et grâce à une lumière dont il s'était muni, nous arrivons enfin vers 10 heures à la maison du lac. Je compris bien ce soir l'utilité de ces chalets forestiers que j'avais regardés jusqu'à ce jour comme des fantaisies somptueuses et sans motif. Ne dites jamais « Fontaine, de ton eau, je ne boirai point ». Tout philosophe que doit être un excursionniste, je préférais à cette heure le beau feu, l'appartement sain, spacieux et le confortable d'une bourgeoise installation à la nudité d'une cabane sans foyer ni porte. M'est avis que nous chantons la simplicité de la vie, les douceurs du brouet et l'impassibilité dans l'épreuve quand tout nous est à souhait. Je regrette de n'avoir pas eu sous la main, à ce moment, un beau raisonneur de l'école de Zénon, fatigué, rompu, trempé jusqu'à la peau et transi jusqu'aux os, pour voir le parti qu'il eût pris de s'en aller stoïquement passer la nuit sous un arbre, sans pain ni manteau, ou de me suivre devant le flambant foyer et l'excellente table que nous dressâmes dans un petit appartement bien calfeutré. Il était temps. Et, comme dans la société il n'y avait pas de faux philosophes, chacun se vengea du mauvais quart d'heure qu'il venait de passer. Le repas fut gai, long, agrémenté d'un feu roulant de bons mots qui nous firent bientôt oublier les tristes débuts de notre excursion et ranimèrent notre courage pour le lendemain.